Vous écoutez jusqu'à 9h. Le Club du matin avec Anthony Marcotte sur BPM Sport.
Le championnat du monde de Formule 1 reprend de plus belle en fin de semaine aux Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. Et après un mois d'inactivité, ben lui, il a hâte, pas à peu près, il va se lever de bonne heure dimanche pour regarder ça. Jean-Maxime Sans Souci du podcast L'Épingle est avec nous ce matin.
Anthony, yes. Quel plaisir de te revoir.
Ben, pareillement. Ta suggestion, d'ailleurs, hier, hey, je viendrai te voir en studio parler de F1, ça te tente-tu? C'est sûr que ça me tente. Ça me tente certain. Là, ça repart en fin de semaine. Ça fait un mois que c'est arrêté.
Oui.
Et ça nous a laissé vraiment avec une belle intrigue pour le dernier droit de la saison. Les luttes s'annoncent vives jusqu'à la fin. Bon, évidemment, Verstappen trône au sommet, mais là, il n'est plus seul, loin de là, là. Plusieurs prétendants à la victoire à chaque semaine.
Absolument. On s'est laissé sur un Grand Prix de Spa qui était absolument incroyable. Quel circuit d'ailleurs, c'était magnifique. Quelle course. Verstappen partait 11e, Norris 5e. Après 3-4 virages, les deux étaient côte à côte, 7 et 8e place, je me rappelle bien. Russell qui gagne, Lewis finalement, c'est lui qui le remporte à cause de la voiture trop légère de Russell. Piastri dans le mix, Ferrari était pas très loin. Écoute, même Lewis l'a dit, la deuxième moitié de saison, ben, moitié entre guillemets, va être tellement enlevante, probablement une des meilleures depuis des décennies.
Ouais. En tout cas, il y a plusieurs choses qu'on va surveiller. Entre autres, Red Bull. Pourront-ils réussir à tenir leur avance au championnat des constructeurs devant McLaren, l'avance qui s'effrite de semaine en semaine?
Je pense pas, Tony. Honnêtement, là, pensons-y, là, ils sont à 42 points de Red Bull. Okay? Il suffit que Norris et Piastri finissent 1-2. Max 3e, on vient de prendre 28 points comme ça.
C'est ça.
T'sais, je pense que c'est impossible. Perez ne livre pas la marchandise depuis... quelques semaines. Non, quelques années. Comment voulez-vous gagner un championnat avec seulement un pilote? La Red Bull n'est pas aussi dominante que l'an passé. La parité est à son paroxysme. C'est incroyable en ce moment-là. On a un show à chaque semaine. On ne sait même pas qui va gagner. Tout le monde peut gagner. En fait, dans les quatre écuries les plus dominantes, Mercedes, McLaren, Red Bull, Ferrari, sept pilotes ont une victoire qui n'en a pas, évidemment, Perez.
Oui, puis jamais passé proche non plus.
Hama.
C'est ça. Mais il est de retour avec un contrat de 2 ans en poche. On aurait pu décider de l'exclure quand même pendant la pause. C'est pas ce qu'on a fait. On lui redonne un vote de confiance. Es-tu surpris de ça?
Extrêmement. On en a parlé à l'épingle. Je comprends pas pourquoi ils ont décidé de le garder. Qu'est-ce qui va changer dans les 10 prochaines courses? Il y a plusieurs options. Il y a des rumeurs que Liberty Media, les propriétaires de la F1, auraient bloqué un transfert de Perez ou un congédiement parce que, bon, au Mexique, tel sel, tel mex, il y a trop de millions et de millions et de millions de dollars. J'en doute. Pourquoi ils ont gardé? Ben parce que quoi? Tsunoda doit rester à RB parce que ça prend un pilier chez RB. Il n'ira pas chez Red Bull. Lawson. Amener Lawson comme ça avec une Red Bull là, à fret, comme on dit, là, en deuxième moitié de saison, un peu trop risqué peut-être.
Mais Lawson, il aurait dû l'amener chez RB dès le début de l'année et non pas ramener Ricardo. Ça, c'est mon feeling.
Je pense qu'on voulait laisser comme une dernière chance à Ricardo. Ça a plus ou moins bien été. A des meilleurs résultats dans les dernières semaines, quoique la RB n'est pas extraordinaire non plus. Et on a... Pourquoi pas essayer Ricardo? On l'a amené un peu pour ça. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner. L'autre option, c'est je pense que les circuits qui s'en viennent, Perez, historiquement, a été meilleur, entre guillemets. Azerbaïdjan, Singapour, des circuits, des street circuits qu'on appelle. Perez est très fort dans ce genre de circuit-là. On a Zandvoort et Monza. Monza, on est dans le tapis à 95% du temps. C'est assez difficile de pas être bon à Monza. Là. Red Bull demeure en ligne droite
quand t'as la
plus rapide ou à peu près. Donc, c'est peut-être pas fini jusqu'à la fin. Peut-être qu'on se dit on va lui donner un 4 courses. Parce qu'après Azerbaïdjan, il y a un mois, il y a 28 jours avant la course suivante au Texas. Donc, c'est encore une grande pause. Peut-être qu'on pourra en reparler chez Red Bull puis dire finalement, tu sais quoi, ça n'a pas bien été, là, c'est fini.
Parlant de Max Verstappen, comparaison venue de l'Amérique du Nord avec Kyle Larson, qui s'est fait poser la question après avoir remporté le Knoxville Nationals, qui est l'épreuve phare de la terre battue dans l'année au complet sur Sprint Car. Il a remporté ça pour la troisième fois lors des quatre dernières années. Tout simplement dominant. Il ne court pas à tous les jours dans un Sprint Car. Il tente d'y aller peut-être une fois par semaine, une fois par deux semaines. Mais là, il a remporté encore Knoxville. Tu te fais poser la question, penses-tu être le meilleur pilote au monde, toutes disciplines confondues? Ben, j'ai dit, il a répondu du tac au tac. Je défie n'importe qui venir s'asseoir d'un Sprint Car à Knoxville, puis d'après moi, cette personne n'est pas capable de venir gagner. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une comparaison avec Max Verstappen. C'est dur de faire justice à ça, parce que le championnat mondial de Formule 1, c'est partout dans le monde. Très difficile de s'exclure de ça pour aller courir ailleurs en cours de saison. Je serais curieux de voir Verstappen dans une autre discipline. Mais est-ce qu'il est aussi bon que Kyle Larson pour gagner dans une autre voiture qu'une Formule 1? Je te pose la question.
Écoute, on connaît ta réponse, mais la mienne est la suivante. Je pense que Kyle Larson, à travers ses pairs, est reconnu comme étant probablement le meilleur, le plus polyvalent du moins. En sprint car, allez googler ça si vous ne savez pas c'est quoi un sprint car, c'est assez cocasse. En NASCAR, il prend une voiture, il domine, c'est pas très long. De l'autre côté, Max Verstappen est totalement dominant en Formule 1. Il fait du e-racing. Récemment, il a essayé une Porsche GT3, il embarque dedans, boum, il domine, ça n'a pas de sens. T'sais, il faudrait qu'on les compare avec la même voiture aussi. T'sais, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Mais je parierais un vieux 2 par contre, que toute discipline qui implique la conduite automobile, met Max là-dedans, laisse-le se pratiquer, puis il y a des bonnes chances qu'il devienne vraiment, vraiment dominant.
Ouais. Mais moi aussi, je le pense. Sincèrement, je le pense aussi.
C'est un robot de course, Max Verstappen.
C'est ça.
Il gagne tout ce qu'il fait, ou à peu près. Par contre, lui-même dit, écoute, je le sais pas. Moi, être dans le dirt, là, sur la terre battue, je suis pas bon. Faudrait que je me pratique, faudrait que je vois
c'est
ça.
C'est normal, j'ai jamais goûté à ça.
C'est ça. T'sais. Puis Larson aussi, lui-même, a été, tu sais, quand même... Il a dit, écoute, je pense pas gagner à Monaco avec une Formule 1 non plus, là. Faut pas oublier qu'on se bat contre la force G, là, tu sais, c'est 5G en Formule 1, les conditions changeantes, en NASCAR aussi, c'est pas facile du tout. Ça serait cool quand même de les voir.
Tu sais, amener Verstappen dans le programme qu'a créé l'écurie Trackhouse, qui a permis de voir Shane Van Gisbergen, un Néo-Zélandais qui roulait dans le circuit de NASCAR australien, il arrive en Amérique du Nord... Embarque dans la voiture, gagne à Chicago, dans les rues de Chicago l'an passé. Ça a ouvert des yeux de partout dans le monde. On a amené, entre autres, Kimi Raikkonen à le même type de voiture. Tard, bien sûr, dépassé la quarantaine, mais amener Verstappen dans une voiture stock car américaine, je serais vraiment curieux de voir ça.
Ça serait quand même excitant. Tu sais, un pilote, un très, très, très bon pilote, un excellent pilote, ça demeure un excellent pilote. Je pense qu'ils peuvent s'adapter à tout. J'en suis sûr.
Avec tous les talents qu'on a en course automobile actuellement, tu as parlé de Shane Van Gisbergen, on a vu Scott McLaughlin aussi qui est passé à l'IndyCar en venant de la même série que Van Gisbergen en Australie. On a vu Kyle Larson faire l'Indy 500 cette année, il devrait le faire l'an prochain.
Alonso le fait aussi.
Alonso aussi le fait, donc il y a tellement de talents et c'est le fun de voir des, en anglais on dit des crossovers. Si on pouvait en avoir de plus en plus, on serait capable de peut-être avoir une petite idée, mais c'est très dur de départir et savoir qui aurait le dessus. C'est tellement compétitif. Moi, personnellement, je vais peut-être mettre mon petit grain de sel. Moi, je pense que je donnerais peut-être l'avantage à Larson parce que je pense que c'est plus difficile de faire le changement en partant de la F1 vers les Sprint Cars ou le NASCAR que l'inverse. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et comment que Kyle Larson a été capable de s'ajuster au mois de mai et comment qu'il l'a fait depuis des années à dominer sur la terre battue. C'est très impressionnant.
Puis en même temps...
Mais de faire le switch aussi, là.
Ouais, c'est ça.
En sprint car, je m'en vais en F1. Pas pareil pendant
non,
tout non
c'est
plus,
pas
là.
Du tout
Jimmy
la même
Johnson,
chose.
Ça a été un flop total de passer du NASCAR à l'IndyCar, justement. Donc, puis on sait que Jimmy Johnson, c'est un 7 fois champion de mémoire en NASCAR, là. Donc,
mais, puis c'est là que ça devient intéressant. Saviez-vous que la Fédération internationale de l'automobile a le projet un peu fou d'essayer d'amener du karting aux Jeux de Brisbane en 2032, aux Jeux olympiques.
Ça serait cœur, hein?
Imaginez ça. T'sais, là, on prend un scénario fou. Là. J'en ai parlé avec Andrew Ranger la semaine passée. Les pays choisissent leurs meilleurs pilotes. On s'en va courir aux Jeux olympiques en karting avec des voitures identiques.
Oui, allons-y.
Pays-Bas, Verstappen. Les États-Unis, Kyle Larson. Allons aux courses.
Aïe, aïe, aïe.
Ça serait-tu débile?
Ça serait débile. Et là...
Avec des cartes aux couleurs des pays.
Et ils se battraient à armes égales.
Ouais.
Ce qui arrive jamais en F1, là.
Non, non, non. Ben, en course automobile, non, tout court, cool, théoriquement.
C'est les réglages, les ingénieurs, bon, l'argent qu'on a à investir. Et je termine en disant que, tu sais, Max Verstappen, après sa carrière, selon moi, il va aller faire le rallye du Dakar. On va aller faire Le Mans, probablement. Tu sais, il a pas fini de courser.
Il a le projet de rouler au Mans avec son père. Exact. Yoss aimerait, ouais. Ils aimeraient les deux former un duo, mm-hmm, et aller rouler aux 24 heures du Mans. C'est fascinant. Puis je vais terminer avec toi, Jean-Maxime, au sujet de ce projet de la Formule 1. C'est pas la première fois qu'on en parle. Peut-être qu'on se rapproche maintenant d'une nouvelle épreuve présentée en Afrique. Et le pays qui est le plus susceptible de recevoir une épreuve serait le Rwanda. Je dois admettre que je suis un petit peu surpris.
Ça m'a vraiment surpris aussi. On en a parlé à micro fermé, mais honnêtement, le Rwanda dans tous les pays possibles, ça me paraît un peu loufoque. Je ne sais pas si ça va arriver.
Ouais.
Je souhaite qu'il y ait un retour de la Formule 1 en Afrique. Dernier Grand Prix, c'était en Afrique du Sud en 93. Ça fait 31 ans. Mais Rwanda, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est assez sécuritaire? Est-ce que ça l'a changé? Ça a-tu évolué? On amènerait le cirque de la F1 au Rwanda? My God, c'est...
Ben, non seulement ça, ont-ils les moyens financiers pour supporter ça?
Non. On veut dire, il y a quelqu'un qui paierait pour ça.
Exact.
Dire, Liberty Media, la F1, la FIA, chipperait in énormément, là, c'est sûr. Dans le fond, le but, là, c'est, comme tu le disais... Là,
championnat mondial.
Championnat du monde, il faut aller en Afrique.
Exact.
Il faut aller dans tous les continents, ou presque. C'est une extraordinaire fenêtre sur ce continent qu'on connaît tellement peu. Quel meilleur ambassadeur que Lewis Hamilton pour en parler.
C'est ce qu'il fait, d'ailleurs.
Le promouvoir depuis longtemps, d'ailleurs. Ça serait vraiment spectaculaire, mais ça va prendre de l'encadrement massif. C'est sûr.
Ouais. En même temps, c'est pas la première fois qu'on se rend dans des zones quand même... entre guillemets, dangereuse en F1. On a vu... Où est-ce que... Il y a eu une explosion, il y a deux ans, là, pendant le week-end de Grand Prix. C'était en Arabie Saoudite, ça me semble?
Ouais, oui, je pense que oui, dans ce coin-là, ou au Qatar.
Tu sais, des fois, faut risquer peut-être un petit peu plus, mais je trouve l'idée intéressante.
Ça paraît risqué.
Peut-être un brin, oui. Peut-être un brin.
Plus safe serait de retourner en Afrique du Sud.
C'est possible aussi.
Entre guillemets.
Alors, à suivre le projet, là, ça se fera pas demain matin. Comme ce projet fou d'amener les Olympiques avec de la course automobile, là, certains vont dire « Ouais, mais là, propulsé par des machines. » Ouais, vous avez raison. En même temps, il y a de l'équitation.
Hey,
c'est quoi la différence?
Il y a du breakdance.
Bon.
Écoute, qui ne reviendra pas d'ailleurs.
Non, ça revient pas. Mais l'équitation, c'est là depuis des années. Ils vont dire que personne ne se plaint.
Écoute, t'as raison.
C'est dresser un cheval ou dresser une monture de course.
Fair enough.
Moi, je prendrais ça.
J'adore l'idée.
Mais moi, je pense que le contexte des Olympiques pour ramener l'élite mondiale de la course automobile, c'est peut-être le meilleur compromis parce que les athlètes ne seront pas payés, mais représenter leur pays, c'est peut-être la seule chance d'opposer les meilleurs pilotes au monde dans une même catégorie. Parce que si tu y vas avec des intérêts privés, bien là, l'argent entre en ligne de compte, devient difficile à organiser.
Et dans 8 ans, qui représenterait l'Angleterre?
Ce
serait
question.
Sûrement pas Lewis.
Genre.
Dans 8 ans, Lando.
Ah, Lando, c'est vrai. Lando, non, Lando Norris.
Dans 8 ans, il va être encore très,
Canada.
Très, très bon.
Ouais.
Anthony Marcotte.
Non, non, mais commenter, pas de problème. Chauffer, c'est un autre jeu.
Ça sera
manche.
Sûrement pas Lance Stroll.
Ben, écoute, pense pas. On connaît une couple qui s'entraînerait de façon très, très
Est-ce
sérieuse.
On a de la relève au Canada, au Québec, en course automobile. Ce serait fascinant de avoir une passion pour un Québécois, un Montréalais, un Canadien, tu sais, depuis Jacques, là, et son père, évidemment. J'en parlais avec Richard Labbé, là, tu sais, on n'a pas de passion pour Lance Stroll au Québec. C'est un Montréalais.
Ouais.
Je trouve ça tellement dommage.
C'est vrai.
J'aimerais tellement ça m'identifier à lui, dire hey, « let's go,
on le voit
Lance.
D'une part. Lance, il vient pas parler à son monde.
Non, je pense qu'il s'en fout un peu.
Ben, il est en partie responsable. Désolé, mais on l'entend jamais. Puis c'est pas la seule. On l'a essayé à plusieurs reprises de l'avoir chez nous.
Oublie ça. Il s'en fout.
Ben oui.
Complètement.
Il est pas proche de son public.
Non.
Comme l'était un gars comme Pat Carpentier, par exemple. Pat, écoute, on l'appelle aujourd'hui, on le met en onde, là.
Ben oui.
T'sais, c'est ça. Et Lance Stroll, il vient pas chercher les gens parce qu'il s'en balance un brin.
Pas mal, même.
Ben, c'est ça. Jean-Marc, c'était le fun.
tellement content de te
Bel
revoir.
Bel été avec toi. Yes. Puis on continue de vous écouter via la commission athlétique et le podcast L'Épingle. Ouais. Excellent travail d'ailleurs avec Greg, avec Pag, évidemment, en ta compagnie. Vous faites un excellent boulot. Alors, bonne fin de saison de la Formule 1. Il reste quand même pas mal de grands prix.
Pas mal de stock. On reprend ça lundi. Ouais. Merci, messieurs. Bon show.
Excellent. Zandvoort en fin de semaine aux Pays-Bas.